Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, notre première destination aujourd'hui est libyenne avec l'annonce du report des questions au gouvernement. Cela devait se dérouler la semaine dernière, la séance a été reportée à cette semaine et une fois encore celle-ci a été repoussée. On a beaucoup vu, lu et analysé ce report à l'aune d'une tension, d'une mauvaise compréhension entre l'Est et l'Ouest du pays, de la Libye, avec toujours des difficultés à communiquer. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, du côté de Tripoli, on demande, du côté donc du gouvernement de Baïba, on demande à ce qu'il y ait une clarification des questions qui seront posées au gouvernement lorsque celui-ci se présentera devant les parlementaires. Et du côté des parlementaires, on a accusé bonne réception de cette demande qui a été formulée par l'autorité de transition. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait ce projet de question au gouvernement et que ceux-ci ne réussissent pas à se présenter devant la représentation parlementaire, ça a créé des incompréhensions, ce qui fait que le Premier ministre de transition, Dbeibah, vient de faire un discours assez intéressant d'ailleurs, où il fait une sorte de synthèse sur tout ce qui a été entrepris, tout ce qui ne fonctionne pas. Aussi, il en parle avec assez grande franchise et honnêteté. Par exemple, il donne des éléments d'intérêt. Le gouvernement ainsi a augmenté de 100% les salaires des retraités depuis le mois d'octobre. Donc, il y a des gestes qui ont été faits. Mais c'est vrai que par ailleurs, il y a toujours des moments d'incompréhension entre l'Est et l'Ouest du pays. On peut retenir, à nous qui nous intéressons au Maghreb, de façon plus générale, plus large, ces propos qui ont été tenus par Dbeibah à l'encontre de la Tunisie, en disant que Tunis doit clarifier ses propos. À Tripoli, on n'a pas du tout apprécié ces informations qui ont fait état de, je cite, 2000 terroristes tunisiens actuellement en Libye qui auraient le projet de revenir à Tunis pour s'en prendre aux autorités du palais de Carthage. Tripoli n'a pas du tout apprécié la circulation de ces informations, estimant qu'il n'y avait pas de terroristes, il n'y avait pas de terroristes tunisiens sur son territoire libyen et qui plus est de gens qui ont envie d'aller faire le coup de force en Tunisie. Donc voilà, une demande de clarification qui a été formulée par le Premier ministre Dbeibah à l'occasion de ce discours à la nation visant à réconcilier l'Est et l'Ouest du pays autant que faire se peut, tout cela dans la perspective des élections générales du 24 décembre prochain. C'est l'affaire qui défraie la chronique en Tunisie, la folle cavale des frères Karaoui, Nabil notamment, ainsi que son frère Razi, qui ont été arrêtés en Algérie. Cela s'est passé dans un petit appartement d'un quartier populaire de Tébessa. Ils étaient accompagnés de 4 personnes, donc. Et c'est là où les forces de sécurité algériennes sont intervenues pour les arrêter dans le cadre tout simplement d'un franchissement clandestin et illégal de la frontière tuniso-algérienne. Ceci est redevable de 3 mois de prison avec une amende devant, pour toute personne qui commet ce type d'infraction, donc qui enfreint la législation algérienne. Le cas des frères Karoui est tout à fait significatif. C'est un homme politique d'importance, des hommes d'affaires d'importance. La famille Karoui est une famille tout à fait active dans le secteur médiatique. A priori, donc, ils vont être jugés devant un tribunal algérien et ensuite reconduits à la frontière en Tunisie où vraisemblablement ils auront à répondre de leurs agissements. Le Maroc qui se bat toujours contre le Covid-19, même s'il y a eu une légère baisse des nouveaux cas en ce début de semaine. Par ailleurs, signalons que le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles mesures pour avoir des résultats qui soient beaucoup plus fiables lorsque des tests sont faits, lorsqu'il s'agit de diagnostiquer la Covid-19 en amont, de telle façon à ce que les procédures de vérification soient tout à fait précises et rigoureuses et qu'il n'y ait pas des tests qui soient faits et puis qui soient faits derrière avec d'autres résultats. Donc l'objectif, c'est que quand un test est fait, on soit sûr du résultat qui soit annoncé, de telle façon à ce que l'on ait une idée très claire sur la progression ou la régression de la pandémie. En Afghanistan, ce sont des sources proches de Ahmad Massoud, le chef du front de résistance du Panjshir, qui tient donc la vallée éponyme, qui était encerclée par des forces talibanes. Celles-ci étaient positionnées aux abords de la vallée depuis le 15 août, jour de la victoire des talibans à Kaboul. Allait-il ou pas engager un assaut contre la vallée du Panjshir, qui refuse toujours la férule talibane? Eh bien, d'après les informations qui nous parviennent en provenance du terrain, les combats auraient commencé, sachant qu'il y avait eu déjà des accrochages. C'était quelques heures seulement après que le face-à-face entre le Panjshir et Kaboul ait été annoncé. Mais maintenant, il semblerait, en tout cas de sources proches de Massoud, que le gros de la troupe talibane essaye actuellement d'entrer, de pénétrer la vallée rebelle, la vallée du Panjshir. Et puis en Afghanistan toujours, cet appel des Russes qui demande à ce que les États-Unis libèrent la réserve de la banque centrale afghane que Washington avait bloquée depuis que les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul. C'est vrai que la question de l'argent est tout à fait essentielle pour les talibans, puisque ceux-ci arrivent à la tête d'un pays où avant c'était les Américains qui faisaient le budget de l'État national afghan en payant à la place des Afghans. Donc maintenant, la question des avoirs, du cash dont les talibans disposent pour gouverner se pose. La Russie demande aux États-Unis de faire un geste en ce sens. Et puis cette attaque de drone, cela s'est passé sur l'aéroport international d'Aba, dans le sud de l'Arabie Saoudite. 8 personnes ont été blessées, vraisemblablement un drone qui a été tiré par la milice Houthi, qui est en guerre au Yémen et soutenue par les forces iraniennes. Ce proche Proche-Orient si loin de nous. Notre escale aujourd'hui nous mène en Palestine. On a appris aujourd'hui le décès d'un tireur d'élite de l'armée israélienne qui a été blessé il y a de cela quelques jours lors d'un échange de tirs à proximité de Gaza. Il est donc décédé. Cela dit le niveau de violence et de tension qu'il y a actuellement entre Israël et le territoire de Gaza. On se souvient de ces manifestations nocturnes qu'il y a eu tout au long de ce week-end, avec ces unités de confusion nocturne. Ce sont ces jeunes qui, la nuit, vont allumer des feux, mettre des pneus en flamme de telle façon à ce qu'ils puissent créer un jeu d'obscurité, de lumière, de feu, un lieu de contestation. C'est vrai qu'il y a toujours du côté de Gaza, de la part de ces jeunes, la volonté de dire qu'ils veulent avoir un avenir. Toutes les sommes d'argent, tous les efforts qui se sont manifestés après la guerre qu'il y a eu au mois de mai, donc il y avait l'espoir d'une reconstruction, eh bien beaucoup de fonds sont toujours bloqués. Le processus de reconstruction des maisons, le processus de reprise en main de l'économie de Gaza est extrêmement lent. La vie à l'intérieur y est extrêmement difficile. Qui plus est, nous sommes actuellement à la fin de l'été. Il y a eu beaucoup de chaleur, beaucoup de difficultés pour accéder à de l'eau. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'électricité coûte extrêmement cher. Donc la climatisation dans les appartements, c'est quelque chose qui est réservé à quelques-uns qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir se payer de l'électricité quand celle-ci vient. Et du côté israélien, il y a beaucoup de craintes quant à ce qui pourrait advenir de Gaza. Alors à la fois du Hamas, même si les derniers rapports israéliens faisaient état d'une menace qui ne serait pas tant le fait du Hamas, mais plutôt du djihad islamique et d'autres factions palestiniennes qui sont toujours dans une volonté d'en découdre avec l'État israélien. L'inquiétude israélienne aussi, ce serait qu'il y ait une aggravation de la situation avec le Hezbollah libanais, ceci venant se conjuguer avec la situation à Gaza, ce qui rendrait la donne sécuritaire d'autant plus complexe à gérer pour les autorités de Tel Aviv. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.